Nicolescu, avec nous, nous raconte l'alpage et tous les moutons de son grand-père et des autres bergers de la région. Ça y est, c'est l'alpage, c'est les vacances un peu.
Exactement. Alors, pendant quelques années, avec ma sœur, nous sommes allés à l'estive avec mes grands-parents. On ne montait pas à pied, bien sûr. Mes parents nous montaient avec l'autobus, les quarts des Alpes. Et après, on montait à la montagne. Et toutes les vacances scolaires, on restait à la montagne, jusqu'en 1952.
Mais alors, vous dormiez, vous aussi, à la Belle Étoile
comme... Ah non,
vous...
non, non. Ah dans la montagne, il y avait quand même la cabane du berger, quand même. Hein.
Mais on vous traitait bien.
Alors, le troupeau, donc, était dans le dernier village. Et le lendemain, c'était la montée vers l'alpage. Alors là, il ne restait plus que mon grand-père, mon oncle et ma grand-mère. Mais ça suffisait, parce que les moutons, vous savez, il suffit que les premiers montent, les autres suivent. Hein. Les moutons, c'est comme ça.
Oui, c'est bien connu.
Voilà, en file indienne, tout le monde monte. Hein. Le chemin, il était étroit et caillouteux. Bien sûr, hein, c'était pas quand même une autoroute. Hein. L'estive où mes grands-parents allaient, ça s'appelait la Gourette. Quand on montait en alpage, on traversait deux petits hameaux. Alors le premier, il était très délabré, c'était une maison et ses dépendances, c'était pas grand-chose. Mais le second, qui n'était pas habité, il y avait une petite chapelle. Alors, le troupeau, il arrive sur l'alpage. Alors, c'est un terrain presque plat. Quand on arrive à la montagne ou aux alpages, c'est presque plat, on va dire. Hein. Alors, devant nous, il y a les alpages, les prés bien verts, une petite forêt sur la droite. Je revois encore tout ça, là.
Ah, hein. Oh, le bonheur, je vous vois.
La cabane du berger, bien sûr, et un joli petit ruisseau avec de l'eau bien claire et une bergerie que l'on aperçoit un petit peu plus haut. Nous sommes arrivés, mais pour mon oncle, il doit faire encore 2 heures à peu près. Parce que le troupeau de mon oncle, qui était un petit peu plus petit, montait encore plus haut. Ça s'appelait la gibière, là, alors. C'était encore plus haut. Il fallait encore compter. Parce qu'il faut penser que pour monter en alpage, il fallait 5 à 6 heures déjà. C'était quand même long, hein, parce que le troupeau, il s'est branlé. Des premiers au dernier, il y avait pratiquement... les premiers devaient être arrivés quand les autres étaient encore...
Un kilomètre peut-être.
Et voilà, enfin, exactement.
J'imagine.
La cabane, elle était rudimentaire quand même. Hein. Il n'y avait qu'une seule pièce, avec un coin pour dormir, un poêle noir au milieu qui était allumé en permanence. Hein, et on n'avait pas le gaz ni rien. Déjà pour les repas et puis pour se chauffer. Parce que quand même, les nuits n'étaient pas.
Étaient C'est fraîches. De l'altitude quand même.
Et le petit ruisseau nous fournissait l'eau potable. Et je me souviens que ma grand-mère mettait les choses au frais. Parce qu'il fallait bien garder aussi un minimum de. D'aliments frais.
Dites, je connais déjà votre réponse, mais j'ai envie de vous la poser. Vous deviez pas vous ennuyer pendant deux mois là-haut.
Non, c'est vrai. J'ai pas souvenance de... Vous savez, on était tellement libres, on suivait mon grand-père, on suivait ma grand-mère, parce que ma grand-mère, comme il restait longtemps, elle avait fait un petit jardinet.
D'accord.
Elle faisait aiguë. Alors, vous savez, on était toujours occupés. Et puis, il faut dire qu'il y a des gens du village qui montaient des fois. Et des touristes. Alors, les touristes, c'était la grosse peur de mon grand-père. Parce qu'en principe, ils avaient des chiens avec eux. Et les chiens, il suffisait qu'ils fassent peur au troupeau. Les brebis, elles pouvaient dévaler.
Partir, bien sûr.
Et partir et dévaler les crêtes. Et mon grand-père, ça a été très, très attentif à ça. Et quand il arrivait des touristes, il leur faisait la leçon, croyez-moi. Hein. Alors, à peu près tous les 8 à 10 jours, mon oncle descendait au village quand même. Hein, parce qu'il y avait un minimum de besoins pour la famille. Hein. Le sel pour les moutons, hein, il fallait quand même. Et puis surtout, il allait voir sa fiancée. Mmh. Voilà, il avait sa fiancée au village. Et bon, voilà, c'était... Et quant à nous, avec ma sœur et ma grand-mère, on descendait en principe une fois. C'était pour la fête du village.
Ça s'appelait le Lozay, d'accord.
Voilà. Okay. C'était 20 km avant Barcelonnette, à peu près. Après le barrage de Serre-Ponçon, mais qui n'existait pas.
Hein. À l'époque, non.
Il n'existait pas. Et voilà, l'été, ça se passait comme ça. Dans la journée, le soleil était présent, mais la nuit était plus fraîche. Et le matin, il y avait beaucoup de brume. Ça, je me souviens de ça. Les brebis, ils redescendaient vers le 15 septembre, à peu près. Alors là, c'était encore ce qu'on avait fait pour la montée. On remettait les sonnailles, on repréparait le charreton. Tout le monde était prêt. Les bergers accompagnateurs remontaient.
Ils étaient remontés en autobus.
Et voilà. On redescendait. Et tout le monde redescendait. Voilà.
Mais c'était l'école, vous me dites, 15 septembre, mais l'école n'avait pas repris ?
Non, parce que l'école reprenait beaucoup plus tard.
D'accord.
Elle reprenait vers le 15 septembre, je crois. Le trajet de retour se faisait de la même façon. Voilà. Alors le retour, dans le village, c'était un événement comme le départ, hein. Le gros troupeau arrivait avec les emplacements de départ, souvent en fin d'après-midi, bien sûr. Le charreton était déchargé, était remisé pour l'année d'après, puisqu'il ne servait qu'à ça. Les ânes regagnaient leurs étables. Les moutons parqués allaient être rendus à leurs propriétaires, mais on les comptait avant, bien sûr. Il fallait savoir qu'ils y étaient tous, quand même. Hein. Alors, c'est pareil, on installait les clèdes et on les faisait passer. D'après les marquages, ben, tout le monde reprenait ses moutons.
Du temps de grand-maman, des fleurs qui poussaient dans son jardin. Le temps a passé, seul reste les pensées, et dans tes mains il ne reste plus rien. Qui a tué grand-maman? Est-ce le temps ou les hommes qui n'ont plus le temps de passer le temps? Du silence à écouter, des branches sur les arbres, des feuilles sur les branches, des oiseaux sur les feuilles, et qui chantait? Qui a tué grand-maman? Est-ce le temps ou les hommes qui n'ont plus le temps de passer le temps? Des chantiers, est-ce pour cela que l'on te pleure? Qui a tué grand-maman? Est-ce le temps ou les hommes qui n'ont plus le temps passer le temps? La 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 la.
Nicole Escaut avec nous, qui arrive de Lançon, la présidente des Amis du Vieux-Lançon. Mais ce n'est pas de Lançon dont elle nous parle, c'est des voyages, c'est des estives. Elle rit, elle a les yeux qui brillent. Mais magnifique, j'aimerais pouvoir avoir des images à passer à la radio. J'imagine tous ces enfants qui courent pendant les vacances en montagne avec... j'imagine des gros bottillons, des shorts courts, je les visualise, hein, c'est ça?
Oh oui, on n'était pas bien habillés. Hein,
pas important.
Non,
hein.
non, ça, c'était pas primordial.
Et alors là, c'est le retour, vous disiez.
Alors là, c'est le retour, donc on compte les bêtes, on les rend aux bergers, tout le monde regagne ses bergeries, tous les bergers. Et l'hiver, le berger sort au maximum son troupeau. Mais les jours sont quand même plus courts. Les bêtes, ben, quand ils ne sortent pas, ben, ils mangent le fourrage qu'on a récolté au printemps, automatiquement. Le berger, par son travail, il est solitaire quand même. Hein. Toute la journée, il reste avec son troupeau, ses chiens. Il passe sa journée à surveiller son troupeau, bien sûr, avec ses chiens, c'est normal. Et souvent, il sculpte son bâton.
Ah oui.
Tous les bergers ont un bâton sculpté.
Eh oui.
Voilà, mon grand-père en avait un.
On l'a toujours.
On l'a toujours. On a encore la biasse de mon grand-père.
La quoi ?
Alors, la biasse, c'était son sac. Voilà, où il mettait, parce qu'il portait le repas automatiquement. Hein.
Eh oui.
Voilà, il mettait son repas. Et des fois, il arrivait qu'il mettait les petits agneaux qui naissaient. Les petits agneaux qui naissaient dans la colline ou quoi, il fallait bien les ramener. Et souvent, il les ramenait dans la biasse, parce que c'était un sac quand même assez grand. Et il avait sa cape aussi.
J'imagine, et son chapeau noir.
Mon grand-père avait plutôt une casquette.
Ah tiens, bon.
Lui, c'était la casquette. Mais c'est vrai que beaucoup de bergers avaient des chapeaux en feutre, parce que le feutre retient l'eau. Ça sert l'eau ne passe pas, c'est imperméable. Alors... La bergerie, elle a été abandonnée dans les années 1965 à la vente du troupeau. Il y a plus de.
Après, il était âgé, votre grand-père, là.
Oui, mon grand-père
pouvait plus s'en occuper.
Oui, voilà, il pouvait plus s'en occuper. Puis mon oncle est décédé à 23 ans. Mon oncle qui était berger. Et mon grand-père n'a plus le courage. Il a pu aller donc à la montagne. Et il a gardé quelques brebis qu'il a vendues en 1965. Et la bergerie s'est arrêtée là. Alors en 1971, la bergerie est devenue le siège d'une association lansonnaise d'animation pour la jeunesse. Et qui a pris le nom de la bergerie. Et cette association a été créée par notre ancien maire Georges Virlogeux. Et parmi les activités de cette association est né le club d'histoire locale qui est devenu les Amis du Violençon.
Ah, voilà.
Vous voyez, je suis un peu reliée par la création de cette association dont je m'occupe maintenant.
C'est incroyable, et la boucle est bouclée.
Exactement, exactement. Et en 1975, la bergerie est devenue une maison d'habitation.
Elle existe donc
elle
toujours.
Elle existe toujours sous la forme d'une maison d'habitation. Mais on ne l'a plus dans la famille.
Voilà. Du coup, ça s'est arrêté avec votre grand-père ça a été vendu. Vos parents n'ont pas du tout été dans ce domaine-là.
Non, mon papa travaillait à Shell. Mon papa chez List, travaillait à Shell.
Et les choses changent.
Oui. Par contre, j'ai un oncle qui a travaillé au chemin de fer, qui était beaucoup, on va dire, le berger de substitution.
Voilà. D'accord.
Il avait gardé un petit peu des moutons. C'était sa passion. Il était tondeur aussi, voilà. C'était sa passion, mais c'était pas son métier. Voilà, c'était pas son
métier. Et vous avez des souvenirs, donc, bien sûr, avec cette maison.
Oh oui.
et vous plongez quand même. Vous êtes à la fois, je le sens bien, une femme très moderne, mais une femme qui n'a pas renié son passé, qui a ses racines dans l'histoire.
Oui. D'ailleurs, vous savez ce que c'est, dans les villages, tout le monde se connaît, tout le monde... Puis bon, on a beaucoup de ramifications du fait que j'ai beaucoup de cousins, de cousines, voilà, des sœurs, voilà. Disons qu'on est une grande famille encore dans le village.
Nicole Escaut, vraiment, je vous remercie. Comme tous vos collègues, vous m'avez passionné, transporté. J'espère qu'il en sera de même pour les auditeurs et les auditrices.
Oui, j'espère. J'espère bien, ça m'a fait beaucoup, beaucoup plaisir de venir. Nous sommes très bien accueillis en plus. Il n'y a aucun souci de ce côté-là, parce que ce n'est pas évident de parler à la radio, mais vraiment...
Oui, mais alors j'ai bien l'impression...
Vous avez bien mis à l'aise.
C'est gentil, mais j'ai bien l'impression que vous êtes la troisième que je reçois de cette association. On dirait que vous avez fait ça toute votre vie.
Oh là.
Mais vous savez pourquoi, Nicole? Parce que vous êtes passionnée. Alors là, vous n'êtes pas en train d'essayer de vous fabriquer une personnalité pour parler, vous parler naturellement.
C'est tout ce que j'ai vécu.
Vous parlez avec votre cœur. Merci, Nicole Escaut.
Merci à vous.